Les séminaires du Collège de France.
J'ai une question qui n'a rien à voir, mais qui concerne un grand monde.
Très bien.
Je vous installe un micro pour présenter votre invité.
Non, 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 non.
Oui, aujourd'hui, c'est pas la, meilleure journée pour...
pour la petite visite de Paris.
Tu vois, là, déjà, ça commence à devenir un peu... Et alors, il y a des moments où les formes sont un peu grosses. Tu as arraché les cheveux. Non, mais je pense que c'est du PowerPoint. Non, mais c'est, sinon, c'est... C'est là que ça commence à devenir dur. Mais bon, il y a ce Beginner's Textbook
qui est sur un peu print, sur IACR, mais
c'est étonnamment complet. Et puis ça a l'avantage de manger le grand standard, les mêmes notations. C'est facile pour comparer à ce qui est différent.
Si je pense encore une page.
Mais oui, c'est presque une densité de formule supérieure.
Ah oui, ça fait mal. Oui,
ouais, non, c'est ça ne se sent pas agréablement. Mais quand tu as le tutoriel d'Hilarion à côté et puis ça de dos, tu finis par arriver à un
ouais, là, c'est vraiment... Là, on va prendre la trine.
Oui, oui, c'est surprenant. Et je me demande, c'est pas quelqu'un, c'est pas l'aquarium aussi. Ça semble assez...
Ça tombe, ouais.
Ça semble être assez facile. Et ça, tu me raconteras. Tu me raconteras au déjeuner. D'abord, tu me donneras le détail, Christian.
Non, mais c'est comme c'est très mat. Hein.
Le micro.
Je prends un tout petit peu de laine, hop, comme ceci. Très bien, je plie ceci dans une poche de la ceinture.
Ça.
Voilà, très bien. Et vous avez le pointeur du coup. C'est l'étoile. Vous appuyez sur l'étoile et vous avez le pointeur vert qui apparaît.
Ah oh, super, merci. Merci. Thank you.
Très bien, je vous propose de commencer le séminaire. Donc pour ce deuxième séminaire de la série, j'espère qu'on m'entend bien, pour le deuxième séminaire de la série, nous avons donc le plaisir d'accueillir Damien Stélé, donc qui est un grand cryptographe, et notamment un grand nom de la cryptographie post-quantique. Donc il travaille actuellement dans une entreprise qui, je croyais, s'appelait Cryptolab, mais a essaimé en Réan aussi. Mais donc auparavant, il était professeur à l'ENS de Lyon et donc spécialiste de la théorie algorithmique des nombres et notamment de tout ce qui est l'algorithme sur les réseaux euclidiens qu'on a vu très brièvement dans le cours ce matin. Et il s'est ensuite donc intéressé à la cryptographie à base de réseaux euclidiens, et ce qui l'a amené donc à participer à plusieurs schémas de chiffrement post-quantique reposant sur cette technologie. Et en fait, des trois schémas de chiffrement post-quantique qui ont finalement été retenus à la fin d'une très longue compétition par le NIST, l'organisme de standardisation américain, eh bien, Damien est le co-auteur de deux d'entre eux, si je ne m'abuse, ce qui est quand même assez, assez remarquable, et vu le niveau de la compétition et le fait d'avoir deux systèmes qui ont survécu jusqu'au bout, c'est assez extraordinaire. Mais il est endormi sur ses lauriers, et donc il s'intéresse aussi beaucoup maintenant au chiffrement homomorphe, et notamment avec cette approche CKKS, dont je ne vais pas parler du tout, car il va le faire beaucoup mieux que moi. Merci Damien.
Merci beaucoup Xavier. Merci pour cette introduction, et c'est un plaisir d'être là ici. Oui, donc effectivement, juste sur une note personnelle, je travaille beaucoup en cryptographie post-quantique, et depuis 2 ans et demi, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Cryptolab. Donc EAN, c'est le nom de la bibliothèque de l'entreprise, dans cette compagnie, je suis directeur scientifique, et on travaille sur le chiffrement homomorphe. Donc là, ce que je vais décrire dans l'exposé, c'est principalement des travaux qui ne sont pas les miens. C'est une introduction générale à CKKS, et je vais donner, donc je vais expliquer comment ça fonctionne, comment le schéma fonctionne, et à la fin je conclurai l'exposé avec une application concrète, une application qui fonctionne en pratique et qui correspond à des produits et pour lesquels il existe des clients. Voilà, donc un peu le plan de l'exposé. Donc je vais parler d'arithmétique CKKS, puis de bootstrap, parce que quand on fait du chiffrement totalement homomorphe, du point de vue algorithmique, le truc vraiment marrant, c'est le bootstrap. C'est là où on se fait des nœuds dans la tête. Et après, je mentionnerai une application en biométrie. Déjà, du point de vue algébrique, on va travailler avec 3 anneaux. Donc j'ai Z de X modulo X puissance N plus 1. Avec n une puissance de 2, donc c'est important pour la sécurité. Et ça correspond à l'espace des clés secrètes. Donc, il y a pas mal de choses que je vais mettre dans R, mais au début, en tout cas, là, je vais mettre les clés secrètes dedans. Donc une clé secrète, ça va être un élément de R avec, par exemple, des coefficients qui sont 0, 1 et moins 1. Ensuite, j'ai un deuxième anneau que j'appelle l'espace des encodés. Et en fait, la raison pour laquelle j'appelle ça des encodés va arriver plus tard. Donc, j'appelle pas ça des clairs volontairement, parce que c'est pas ce qui va vraiment nous intéresser pour les calculs, mais c'est ce sur quoi je vais commencer à travailler au début. Donc, c'est déjà des clairs qui sont mis dans un format différent. Donc, j'appelle ça des encodés. Et là, l'anneau, c'est le même qu'avant, sauf qu'au lieu de prendre des coefficients entiers, je prends des coefficients réels. Voilà. Et ensuite, j'ai un autre anneau qui, lui, correspond au chiffré, qui est le même que le premier, sauf qu'au lieu de prendre des coefficients dans Z, je prends des coefficients dans Z modulo Q. Et là, typiquement, en pratique, on prend Q premier congruent à 1 modulo 2N, ou encore mieux, un produit de tels entiers 2 à 2 distincts. Et ça, c'est pour des raisons d'efficacité. Donc ça n'a rien à voir avec la sécurité, mais c'est que du point de vue efficacité, si Q est premier congruent à 1 modulo 2N, On a un anneau qui a des racines primitives de zénième de l'unité, et donc on a une espèce de transformée de Fourier dans cet anneau-là qui permet de calculer très vite. Et si Q est un produit de tels entiers, alors on peut aussi faire des restes chinois et travailler avec les restes chinois, et sur chacun des restes chinois, on peut faire des transformées de Fourier rapides. Voilà, donc ça c'est du point de vue efficacité. Pour la description conceptuelle du schéma, on peut prendre n'importe quel Q, y compris Q une puissance de 2, si ça simplifie. L'espace déchiffré, c'est pas RQ, c'est RQ croix RQ, donc c'est des vecteurs de dimension 2 sur RQ. Voilà, donc qu'est-ce que c'est un chiffré? C'est une paire AB, avec A et B qui sont tous les deux dans RQ, tel que AS plus B, avec S la clé secrète, ce soit une fonction de M. Où M, c'est justement mon encodé, modulo Q. Donc ce qui est vraiment important, c'est cette équation de déchiffrement. Savoir comment je chiffre, ça a peu d'importance. C'est pas extrêmement habile, donc on prend un chiffré de 0 et on s'en sert pour chiffrer grâce à l'homomorphisme. Ce qui est vraiment intéressant, c'est comment on déchiffre, parce que c'est ça qui permet de suivre les opérations homomorphes, l'arithmétique homomorphe. Donc l'encodage CKKS, pour reprendre les notations du cours de tout à l'heure, donc on a AS plus B qui vaut F de M, et ça il y a d'autres schémas homomorphes qui ont la même formule, hein, donc il y a BFV avec F de M qui va être Q sur T fois M plus un bruit, et il y a BGV qui va être M plus T fois E, T fois un bruit, donc avec le grand boutiste et le petit boutiste. Dans ces CKKS, on va faire différemment. F de M, c'est en gros delta fois M. Alors, il ne faut pas oublier que M, c'est un truc à coefficient réel. Donc, delta fois M, je le mets à l'échelle. Donc, delta, c'est un facteur d'échelle. Et à peu près, parce que il faut au moins l'arrondir vers des entiers pour que ça ait un sens dans cet anneau-là. OK. Donc ce à peu près cache du bruit en particulier. Donc si je le fais avec des dessins, avec les bits de poids fort à gauche et les bits de poids faible à droite, BFV va mettre le message M dans les bits de poids fort et le bruit dans les bits de poids faible, BGV va mettre le message dans les bits de poids faible et le bruit juste au-dessus, et c'est KKS, c'est un peu le renversé de BGV, on va voir le bruit qui est dans les bits de poids faible et le message qui est juste au-dessus. Il n'est pas dans les bits de poids fort, il est juste au-dessus du bruit. Voilà, donc c'est trois façons de formater la donnée différemment. Et donc, pour revenir sur ce delta, delta, en gros, ça va être log delta, c'est le nombre de bits que j'ai ici, pour passer au bit de poids fort de M. Et le bruit, il va avoir un nombre de bits à peu près fixé, en général, disons une quinzaine de bits de bruit, et delta va guider la précision du calcul. Donc en gros, delta, c'est la largeur ici, avec la largeur du bruit qui est fixée, et donc delta guide la précision du calcul. Donc c'est important qu'on ait delta, parce que M, c'est un réel, et donc mes réels, ils vont être approchés, et donc en gros, la précision des réels, c'est log delta à un petit nombre de bits de bruit près. Et l'encodé, M, il est pas vraiment distinct du bruit. Cette frontière-là, entre orange et vert, elle est floue. Parce que le bruit de ring LWI, qui correspond à un bruit lié au chiffrement, qui est là pour la sécurité, il est mélangé au bruit numérique de M. Parce que M, c'est un réel, hein, et donc en fait, il est approché, donc il est connu de manière approximative. Et ce bruit numérique de M, il est aussi absorbé dans le bruit de difficulté calculatoire de ring LWI. Donc cette frontière, elle est floue. Donc quand je récupère F de M, je sais que les bits significatifs ont un sens, et les bits de poids faible, c'est du bruit, quoi. OK. Alors, additionner et multiplier. Donc je reprends mon équation. Donc cette fois-ci, je l'écris avec des vecteurs. Donc c'est comme CT, c'est AB, et donc SK, c'est comme si je prenais le vecteur S1. Donc je fais CT produit scalaire SK, c'est AS plus B. C'est en gros delta M, à un bruit près. Donc maintenant, si j'en prends deux comme ça, si j'ai CT1 et CT2 tels que quand je prends leur produit scalaire avec SK, j'ai respectivement à peu près delta M1 et delta M2. Comme le produit scalaire, il est additif, il est homomorphique pour l'addition. Si je prends CT1 plus CT2, que je peux calculer publiquement, et que je regarde ce que ça fait quand je déchiffre, en faisant le produit scalaire avec SK, ben je récupère sans surprise delta fois M1 plus M2. Okay. Donc ça c'est, bon, c'est donné pour l'addition. Pour la multiplication, donc, comme expliquait Xavier tout à l'heure, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des tenseurs, parce que du coup, CT1, tenseur CT2, produit scalaire SK, tenseur SK, ça se redistribue avec les produits scalaires, donc ça donne un CT1, produit scalaire SK, fois CT2, produit scalaire SK. Le premier, c'est en gros delta M1, le deuxième, c'est en gros delta M2, et donc ce CT1, tenseur CT2, il déchiffre vers delta carré M1, M2, sous une clé qui est SK, tenseur SK. Voilà, donc j'ai une multiplication. Par contre, il y a quand même deux soucis avec c'est deux difficultés avec cette multiplication. Voilà, il y a un truc bizarre avec mon transparent. Donc, une première difficulté, c'est que CT1 tenseur CT2, il n'a pas le même format que CT1 ou CT2. CT1 et CT2 étaient de dimension 2 sur l'anneau. Le tenseur, il est de dimension 4. Alors, je peux continuer. Hein, si je fais un tenseur de dimension 4 avec lui-même, j'aurai une dimension 16. Puis ça va croître très vite. Et on voit qu'au bout d'un moment, ça va devenir difficile. Quoi. Donc ça, c'est une première difficulté. On a envie de revenir à une dimension 2. L'autre problème, c'est que le facteur d'échelle était delta, et maintenant, c'est delta carré. Et donc, si je continue, Xavier l'a très bien expliqué avec BGV, si je continue, je le fais une deuxième fois, je vais avoir delta 4, puis delta 8, etc., et ça croît trop vite. Hein. On perd... le facteur d'échelle croît trop vite et très vite on est limité. Ok, donc comment on gère le premier problème avec un changement de clé. Alors là, je donne la formule et je vous demande de me croire sur parole. En fait, une fois qu'on a la formule, on peut s'amuser à faire toutes les équations pour vérifier qu'elle marche. La vraie difficulté, c'est de la trouver. La formule, c'est la suivante. C'est supposons que j'ai une matrice C telle que C fois SK, ce soit à peu près P fois SK tenseur SK. Ok, donc ma matrice, elle a deux colonnes pour pouvoir multiplier avec SK, et elle a quatre lignes. Ou c'est l'inverse. Oui, elle a quatre lignes pour avoir SK tenseur SK. bref, modulo PQ. Donc si j'ai une telle matrice, donc cette matrice-là, on peut la voir comme un chiffré de SK tenseur SK sous SK, avec P à peu près égal à Q, alors je peux regarder cette transformation-là de CT1 tenseur CT2. Donc je multiplie C transpose avec CT1 tenseur CT2, je divise par P, et donc ça me donne un nouveau chiffré. Celui-là, on peut vérifier qu'il est de dimension 2 et qu'il est défini modulo Q. Il se trouve que si je fais le produit scalaire entre celui-là et SK, je trouve à peu près delta carré M1 M2. Donc ça préserve le message encodé sous-jacent. Ça fait croître un petit peu le bruit, mais pas significativement. Et j'ai de nouveau quelque chose de dimension 2. Donc ça me résout mon premier problème. Le deuxième problème, c'était le facteur d'échelle qui était à delta carré. Et donc, comme dans BGV ou BFV, pour faire descendre le facteur d'échelle, je vais simplement diviser par delta. Alors delta, c'est pas forcément un entier dans mon cas. Donc en fait, je suppose que j'ai Q qui s'écrit comme Q1, Q2, avec un des facteurs qui est à peu près de la taille de delta, et je vais diviser par Q2. Donc je prends 1 sur Q2 fois CT, là j'oublie un arrondi au plus proche, et quand je prends son produit scalaire avec SK, j'ai à peu près delta M1. Voilà, donc ça me permet de finir la multiplication. Donc la multiplication, c'est un tenseur, une relinéarisation, qui est un produit matrice vecteur de petite dimension, et un passage à l'échelle, ou une décroissance du module, donc tout ça, c'est des opérations assez simples. Donc quand je les compose, j'ai enfin une multiplication. OK. Alors, là, donc maintenant, on sait additionner et multiplier. Mais qu'est-ce qu'on sait additionner et multiplier? On sait additionner et multiplier dans R de x modulo x puissance n plus 1. Et ça, ce n'est pas hyper utile en pratique. Hein. Je veux dire, il n'y a pas des tonnes de gens qui veulent calculer sur R de x modulo x puissance n plus 1. On aimerait avoir un modèle de calcul qui est un peu plus exploitable. Et donc ça, c'est l'objet de, justement, de cet encodage CKKS. Donc j'y arrive. Donc je prends, par exemple, n sur 2 racine complexe de x puissance n plus 1. Donc x puissance n plus 1, il a n racines complexes. Elles sont toutes les deux conjuguées de A2. Et j'en choisis la moitié en enlevant des conjugués. Donc j'en prends n sur 2 qui sont non conjuguées de A2. Okay, donc maintenant, j'ai un isomorphisme d'anneaux qui va de R de x modulo x puissance n plus 1 vers c à la puissance n sur 2, qui consiste à évaluer en ses racines de l'unité. En ses racines complexes. Donc je me retrouve avec un vecteur de nombres complexes. Donc j'en ai n sur 2. Je garde bien la même quantité d'informations, moralement, parce que là, j'ai n réel. Là, ici, j'ai n sur 2 complexes, et un complexe est 2 réels, donc j'ai bien n réels. Donc, j'ai bien conservé l'information, au minimum. Donc c'est un morphisme d'anneau, l'addition de polynômes correspond à l'addition de vecteurs, et de manière intéressante, la multiplication de polynômes correspond à la multiplication point à point de vecteurs. Parce que si je multiplie m1 et m2, et que j'évalue en z1, ben c'est comme si je faisais l'évaluation de m1 en z1 et l'évaluation de m2 en z1 et je multiplie entre elles. Donc ça me donne de la multiplication point à point dans cet espace-là. Une autre propriété importante de cette fonction, c'est que c'est une fonction linéaire, donc ça on va s'en servir plus tard, parce qu'on va avoir besoin de l'évaluer homomorphiquement. C'est une isométrie. Donc si j'ai quelque chose qui est petit ici, c'est-à-dire un petit coefficient, je vais trouver un petit vecteur en particulier. Alors, comment est-ce qu'on fait? Donc, mes clairs, en fait, c'est des vecteurs de complexes de dimension n sur 2. Alors ça peut paraître bizarre d'avoir ce n sur 2, on aimerait avoir n ici, mais en fait le n c'est déjà la dimension de l'anneau, donc c'est n sur 2. Pour l'encoder, j'applique une transformée de Fourier inverse, hein, essentiellement. Alors c'est pas exactement la transformée de Fourier, mais c'est très très proche. Hein. Donc je récupère un encodé qui a coefficient réel, hein, et ensuite je peux avoir un chiffré en trouvant une paire AB, dans RQ, croix RQ, tel que AS plus B, c'est environ delta fois M, où delta, c'est le facteur d'échelle. Donc, à ce stade, maintenant, si je regarde ce que je sais faire sur les encodés, je savais additionner et multiplier des polynômes, mais comme l'encodage, c'est un morphisme d'anneau, je sais aussi additionner homomorphiquement des vecteurs de clair et multiplier homomorphiquement des vecteurs de clair. Voilà, donc ça me donne l'arithmétique de base. Hein. Alors on peut la compléter. Donc maintenant je sais additionner point à point des vecteurs, je sais multiplier point à point des vecteurs, mais si j'ai que ces deux opérations-là, je ne peux pas mélanger les coordonnées. La deuxième coordonnée n'interférera jamais avec la première si je sais juste additionner en parallèle et multiplier en parallèle. Donc pour faire ça, on utilise les automorphismes de l'anneau. Donc, cette fois-ci, je prends z de x modulo x puissance n plus 1. Bon, ça marche aussi bien avec r de x. Et donc, j'ai deux types d'automorphismes. J'ai l'évaluation en x puissance 5. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je prends m de x au lieu de l'évaluer en x, je remplace x par x puissance 5, modulo x puissance n plus 1. Et alors ça, il se trouve que ça me génère un groupe d'ordre n sur 2. Après, je peux évaluer modulo x puissance 5 au carré, x puissance 5 au cube, x puissance 5 à la puissance 4, etc., etc. Et j'ai aussi l'évaluation en x puissance moins 1, qui ne fait pas partie des compositions de la première, qui est indépendante. X puissance moins 1, c'est quoi x puissance moins 1? Modulo x puissance n plus 1. X puissance moins 1, c'est moins x puissance n moins 1. Parce que quand je multiplie x puissance n moins 1 avec x, je retrouve x puissance n qui vaut moins 1, et avec le signe moins, je retrouve 1. Donc x moins 1, c'est bien, et moins x puissance n moins 1. Et donc je regarde cette évaluation en x moins 1, ou en moins x puissance n moins 1, et celle-là a un ordre 2. Donc si je le fais deux fois de suite, je retombe sur mes pieds, parce que x moins 1, moins 1, c'est x. Ok, donc regardons ce qu'on sait faire avec ça. Donc si je pars de CT produit scalaire SK qui vaut à peu près delta M, je peux m'amuser à évaluer en x puissance 5. Donc CT en x puissance 5, produit scalaire SK en x puissance 5, c'est à peu près delta fois M évalué en x puissance 5. Et là, quel est l'effet sur le clair sous-jacent? En fait, ça correspond à une permutation des coordonnées. Donc si j'ai mon vecteur de complexe, que je regarde ce que fait le m en x puissance 5 sur le clair qui est sous-jacent à l'encodé m, ça revient à permuter les coordonnées. Alors envoyer, en fait j'envoie une racine complexe zeta i sur une autre. J'envoie des zeta i sur des zeta sigma de i. Et maintenant je peux aussi évaluer en x moins 1, et je récupère ct de x moins 1, qui déchiffre vers delta fois m de x moins 1 sous la clé sk de x moins 1. Et là, qu'est-ce que ça fait sur les clairs hein, sous-jacents? En fait, ça revient à conjuguer les coordonnées. Donc celui-là, il me donne la conjugaison complexe. Hein. Alors là, il y a quand même une subtilité, c'est que maintenant, ça déchiffre plus sous SK, mais ça déchiffre sous SK évalué en x puissance 5, ou ça déchiffre sous SK évalué en x moins 1. Et donc, il faut revenir à SK. Mais ça, on sait faire, on l'a déjà fait pour la multiplication. Quand on multipliait, on est revenu de SK tenseur SK vers SK. Et en fait, revenir de SK en x puissance 5 vers SK peut être fait exactement de la même manière. Ok, donc si je résume, hein, voilà l'arithmétique de ces KKS. Hein. Donc j'ai un espace d'éclair hein, qui est C puissance n sur 2, à une certaine précision qui est pilotée par delta, qui est le facteur d'échelle. Je sais additionner en parallèle, multiplier en parallèle, conjuguer en parallèle, et si j'ordonne bien les zeta i, si je les mets bien dans le bon sens, je peux obtenir le fait que mes permutations soient intelligentes ou exploitables, et en fait j'obtiens une rotation cyclique des entrées du vecteur. Donc j'ai mon vecteur qui est comme ça, et si j'applique l'évaluation à x puissance 5, je décale tout de 1, et le dernier qui déborde, je le mets en première position. Donc c'est un schéma qui est étagé, dans le sens où quand je multiplie, je fais baisser le module d'un facteur delta, et donc on dit qu'on a un étage de moins. Et par contre, si j'additionne, je conjugue ou je fais tourner, ça ne fait pas baisser le module, donc je conserve l'étage. Hein. Donc il y a deux grandes règles pour programmer efficacement avec ces KKS. La première règle, c'est pas gaspiller le module, parce que si je démarre avec certains modules, je vais pouvoir faire un certain nombre de multiplications en séquentiel, et après j'ai plus de modules. Donc la première règle, c'est ne pas gaspiller le module. Donc essayer de minimiser le nombre de multiplications séquentielles. La deuxième règle, c'est de ne pas gaspiller le parallélisme, hein, parce que là j'ai des vecteurs avec n sur 2 entrées, n ça va être assez grand, et j'ai pas envie d'utiliser une seule coordonnée parmi les n sur 2. Alors je peux, mais c'est pas malin, parce que je paye le même prix. Si j'utilise les n sur 2, je paye le même prix que si j'en utilise une. Donc il ne faut pas gaspiller le parallélisme. Hein. Donc, c'est-à-dire, on a un modèle de calcul, on va vouloir calculer sur des vecteurs de très grande dimension, on va vouloir stocker un maximum de données dans ces vecteurs, et on pourra faire des opérations, mais si possible, pas trop de multiplication séquentielle. Voilà, donc ça, et quand on veut faire de l'algorithmique, c'est KKS. Hein. Donc une fois qu'on a le modèle de calcul, on peut faire de l'algorithmique. Et le but du jeu, c'est d'être peu profond en multiplication et d'être hyper parallèle sur l'éclair, calculé sur des vecteurs. Voilà, donc on va illustrer ça avec le bootstrap. Si je reprends, chaque multiplication fait perdre du module, un étage, hein, et quand j'ai plus assez de modules, ça semble cuit. Là, le bootstrap, hein, c'est une opération de maintenance sur des chiffrés. Ça calcule rien d'intéressant sur l'éclair sous-jacent. Le seul but, c'est de regagner du module hein, pour se redonner de l'oxygène pour les opérations suivantes. À quoi est-ce qu'on a droit pour le bootstrap? eh ben, le bootstrap, ça va être une opération homomorphe ou une suite d'opérations homomorphes. Et on a le droit aux opérations natives de ces KKS. On a le droit à l'arithmétique de ces KKS pour bootstrapper ces KKS. C'est ça les règles du jeu. J'ai le droit d'utiliser les opérations que j'avais précédemment pour regagner du module. C'est ma boîte à outils. Une fois que j'ai le bootstrap, bah, du coup, je peux perdre du module en faisant du calcul, et puis je regagne du module quand j'en ai besoin, puis je recalcule, et je regagne du module. Et donc je peux calculer indéfiniment. Donc il y a deux outils essentiels dans ce bootstrap, mais qui sont en fait des outils qui servent bien au-delà du bootstrap. Hein, ce n'est pas des objets, des opérations farfelues. La première, c'est comment faire un produit matrice vecteur. Et la deuxième, c'est comment évaluer un polynôme. Et donc on ne parle pas d'opérations particulièrement farfelues. Donc là, mettons que j'ai une matrice qui est en clair, c'est ce dont j'ai besoin pour bootstrapper. Donc on pourrait imaginer qu'elle est chiffrée, mais là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est une matrice en clair, et un vecteur chiffré. Donc ce vecteur chiffré, lui, il est codé dans un seul chiffré, parce que je n'ai pas envie de perdre en parallélisme. Donc tout ça, je le mets dans un seul chiffré. Et je veux calculer un chiffré qui correspond au produit de cette matrice par ce vecteur. Okay. Et ben, pour faire ça, on peut utiliser ce qui s'appelle la méthode diagonale. Donc, je regarde les diagonales successives. Donc, la première, ça va être la verte. La deuxième, ça va être la violette, qui se continue ici. Donc, c'est des diagonales cycliques, si on veut, etc. Et puis, la dernière diagonale, la n sur 2im, ça va être, elle va commencer ici, avec le point en haut à droite, et elle va se continuer avec la première diagonale qui était sous la verte. Okay. Et donc, quand on regarde, donc, ce à quoi j'ai droit, c'est de la multiplication point à point et des rotations et des additions. C'est ça mon arithmétique CKKS. Donc, c'est ça que j'essaie d'exploiter. Et surtout, je n'ai pas envie de perdre en parallélisme. Je n'ai aussi pas envie de faire des multiplications à gogo, hein, parce que ça me fait perdre des niveaux. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ce vecteur vert et je le multiplie avec mon chiffré. Donc, c'est un produit point à point. Donc, on récupère U1, MU1, U2, MU2, etc. Après, je peux prendre, il me manque les termes produits U1, 2, MU2, U2, 3, MU3, etc. Et donc, ça s'obtient en prenant la deuxième diagonale que je mets dans un vecteur. Je fais un produit point à point avec le vecteur chiffré qui a tourné d'une position. Et je continue. La dernière. Je fais le produit de la dernière diagonale avec le vecteur chiffré que j'ai fait tourner de n sur 2 moins une position. Okay. Donc les diagonales se décalent. Ça, ça ne coûte rien parce que c'est des calculs sur des clairs. Donc c'est des jeux de pointeurs. Et par contre, le vecteur chiffré, lui, il tourne dans ma somme. Donc ça, combien ça coûte? Ça coûte n rotations. Donc j'ai fait tourner n fois mon vecteur chiffré, ça coûte n-1 addition homomorphe, point à point, et ça coûte un étage parce que j'ai une multiplication qui est faite plein de fois en parallèle, hein, mais elles sont toutes en parallèle, elles ne sont pas en séquentiel, donc ça me coûte un étage. Donc n rotation, n-1 addition, un étage, c'est pas trop mal. Il y a moyen de faire mieux, il y a des approches à base de pas de bébé, pas de géant, qui permettent de descendre à grand taux de racine de n rotation. Si la matrice est structurée, il y a moyen de faire mieux. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la matrice de transformée de Fourier. Là, évidemment, il y a mieux. Je n'entre pas dans les détails de comment faire mieux, mais il y a significativement mieux quand la matrice a une forme particulière. Deuxième opération vraiment fondamentale, l'évaluation polynomiale. Donc, mettons que j'ai mu qui soit chiffré, et j'ai p, un polynôme qui est en clair. Okay, je veux évaluer la somme des pi mu puissance i, avec d le degré du polynôme. Okay, et de nouveau, j'ai envie de ne pas trop multiplier en séquentiel, hein, parce que je ne veux pas perdre de la profondeur. Donc, Hörner, surtout pas, parce que Hörner, profondeur d. C'est la catastrophe ici, Hörner. Donc, au contraire, ce que je vais faire, c'est calculer d'abord les puissances de mu comme ça, en divisant par 2. À chaque fois, donc mu puissance 2k c'est mu puissance k au carré, mu puissance 2k plus 1 c'est mu puissance k fois mu puissance k plus 1. Ça me permet d'avoir une profondeur qui est en log d, donc c'est plus malin, Et j'ai le même nombre de multiplications qu'avant. Que si je faisais en earner, j'en ai des, là. J'en ai une par puissance de mu. Ensuite, une fois que j'ai toutes les puissances de mu, j'évalue la fonction linéaire. Donc ça, c'est une profondeur de 1, puisque tout se fait en parallèle ici. Et j'additionne. Donc j'ai 2D multiplication, D addition et log D étage. Hein, log D plus 1 étage. Okay, et en fait, pour le même prix, je pourrais avoir mu qui est un vecteur de complexe et faire tout ça en parallèle sur les différentes coordonnées. Donc pour le même prix, je peux faire la même chose pour n sur 2 points en parallèle. Voilà, donc ça donne un peu d'intuition sur comment on a envie de faire du calcul CKKS. Hein. Donc pas perdre en profondeur et essayer de maximiser le parallélisme, hein, le parallélisme disponible. Hein. Ok, donc là on arrive au bootstrap. Hein. Donc mon objectif, hein, j'ai CT, un chiffré, qui déchiffre vers mu ou vers m, hein, suivant qu'on parle des clairs ou des encodés, modulo Q0. Q0 c'est petit, je sais pas, 20 bits. Et je veux regagner du module. Je veux arriver à CT' modulo grand Q, je ne sais pas, avec Q qui vaut 1000 bits, hein, pour avoir de la place ensuite. Donc Q qui est beaucoup, beaucoup plus grand, et je veux à peu près préserver le clair ou l'encodé. À peu près, ça me suffit, parce que de toute façon, j'ai des réels, il y a des erreurs numériques, donc bon, si je rajoute un petit peu d'erreurs à côté du bootstrap, c'est pas la fin du monde. Alors la première étape, qui est la plus importante pour gagner du module, hein, et la plus débile, hein, calculatoirement. Donc si j'ai CT produit scalaire SK qui vaut delta M modulo Q0, alors il existe un I dans R, donc c'est-à-dire un polynôme à coefficient entier, tel que CT produit SK, produit scalaire SK, c'est à peu près delta M plus Q0 fois I. C'est la définition de modulo Q0. Okay. Et ça, c'est vrai sur R. Et donc c'est vrai pour n'importe quel module de mon choix, y compris un module gigantesque. Parce que si c'est vrai sur R, c'est vrai modulo Q pour n'importe quel Q, y compris un Q qui est immense. Okay. Donc là, j'ai rien fait. J'ai rien fait, mais j'ai gagné du module. Donc j'ai presque résolu mon problème. Ce qui me reste maintenant, c'est à me débarrasser de I. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas M. Hein. C'est pas M plus I. C'est pas delta M plus Q0I. Ce que je veux, c'est delta M. Hein. Donc le reste du jeu, c'est maintenant je suis un module très grand, je peux faire des trucs, parce que j'ai du module. Par contre, mon but, c'est de me débarrasser de I. Alors, les opérations que je sais faire, elles sont dans les coefficients, c'est quand je suis sur des complexes, hein, quand je suis sur des clairs et pas sur des encodés. Et malheureusement, la I, I, c'est un polynôme, hein, et donc il vit dans les coefficients. Donc la première étape que je vais faire, c'est le mettre dans les vecteurs. Alors comment je fais ça? En évaluant homomorphiquement la transformée de Fourier inverse. Donc je me retrouve avec un C2, donc c'est une opération qui s'appelle coef to slots, parce que coef, ça va représenter les coefficients du polynôme, et slots, c'est les coefficients du vecteur. Donc je me retrouve avec un autre chiffré, tel que quand je le déchiffre avec SK, c'est proche de la transformée Fourier inverse de M plus Q0i. Et ça, c'est bien parce qu'ensuite, je vais pouvoir calculer sur les slots en parallèle pour enlever i. Donc ça, c'est un produit matrice vecteur. Et on a vu qu'on savait faire un produit matrice vecteur. La matrice, elle est en clair, c'est la matrice de la transformée de Fourier inverse. Et le vecteur, bah, c'est le vecteur qui correspond aux encodés sous-jacents à ça. Au clair sous-jacent à ça. Ok, alors ensuite j'ai une étape que je n'explique pas ici, mais que j'explique au prochain transparent, c'est comment me débarrasser de i quand je suis en slot, donc comment faire une réduction modulo Q0 de manière homomorphe. Mettons que je sache faire, j'explique au transparent suivant comment faire. Je me suis débarrassé de i, à ce stade, j'ai delta fois la transformée Fourier inverse de m, hein, mais ce n'est pas le même format qu'au début, j'avais delta m. Hein. Donc pour retomber sur mes pieds, je fais un slot to coef, c'est-à-dire une évaluation homomorphe de la transformée de Fourier directe pour enlever la transformée de Fourier inverse. Et donc à la fin, je me retrouve avec delta M. Donc j'augmente le module en créant Q0i, je fais une transformée de Fourier inverse pour me retrouver dans un espace où je vais faire des calculs en parallèle. Ensuite, je fais mes calculs. Et après, bah, je refais ma transition étourdie dans l'autre sens pour revenir sur mes pattes. Ok, alors qu'est-ce que c'est ces calculs de EvalMode? Donc EvalMode, il essaie de faire la chose suivante. Donc maintenant j'ai m plus Q0i dans les coefficients d'un vecteur complexe. Et je voudrais enlever Q0i, point à point. Okay. Donc après passage à l'échelle, donc bon, le delta et le Q0, c'est pas très. C'est pas, ils sont pas hyper. Ah oui, là j'ai une petite erreur, mais. Donc je passe à l'échelle, en fait c'est delta sur Q0 fois m plus i que je voudrais envoyer sur delta sur Q0 fois m. Donc je veux faire une réduction modulo 1. Okay, alors le problème c'est que quand je regarde ce que je sais faire, quand je regarde ce à quoi j'ai droit dans les slots, j'ai le droit à additionner et à multiplier. Donc si j'ai l'addition et la multiplication, j'ai les polynômes et c'est tout. Alors je peux conjuguer, mais ici on ne voit pas très bien comment ça va aider. En gros, je peux évaluer des polynômes. Et la réduction modulo 1, ce n'est pas un polynôme. Quand je la dessine ici en bleu, c'est même pas continu. Donc c'est pas un polynôme parce que c'est pas continu. Et puis ça part pas à l'infini ou à moins l'infini quand je fais tendre x vers l'infini ou vers moins l'infini. Il y a quand même des. Donc je suis loin d'avoir un truc que je sais facilement évaluer. Alors par contre, ce que je peux faire, c'est le remplacer par un polynôme. Et ici, il y a deux étapes conceptuelles. La première, c'est dire x modulo 1 pour x proche d'un entier. C'est quasiment la fonction sinus. Le sinus de x, c'est x en 0, mais en pi, en 2pi, sinus de 2pi x, enfin 2pi plus x, pardon, ça va être aussi environ x. Donc ça, en rouge, j'ai la fonction sinus. Donc au lieu d'évaluer mode 1, je vais évaluer sinus. Okay. Mais sinus, c'est toujours pas un polynôme. Alors sinus, c'est continu, c'est déjà plus sympa. Mais c'est toujours pas un polynôme. Ça part jamais à plus ou moins l'infini quand j'augmente x ou moins x. Et en fait, il se trouve que je suis intéressé par un nombre fini de périodes. On peut montrer que i n'est pas très grand, donc le nombre de périodes est fini. Et donc ce que je vais faire, c'est approcher sinus par un polynôme sur le nombre fini de périodes qui m'intéresse par un polynôme. Donc j'ai une approximation polynomiale de mon sinus. Et en pratique, on va avoir des polynômes de l'ordre de degrés, de l'ordre de 60, hein, ou de 64 ou 128. Hein. Les puissances de 2, c'est sympa. 32, c'est trop petit, mais 64 et 128, ça marche bien. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait le EvalMode, qu'on enlève le i, c'est en faisant une évaluation d'un polynôme qui imite un sinus. Hein. Alors, est-ce que tout ça, c'est efficace? Donc, le bootstrap, donc j'ai mon étape de transformée de Fourier directe, inverse, puis mon évaluation polynomiale, qui quand même consomme du module aussi, hein, des étages, et mon évaluation de Fourier directe ensuite, hein, tout ça en homomorphe. Hein, donc, on peut se dire que c'est quand même assez laborieux. Donc, ça a été optimisé. Donc, la première description du bootstrap CKKS, c'est 2017. Hein. Il y a eu des tonnes de papiers dessus. Donc là, je donne la performance actuelle. Donc c'est avec la bibliothèque de CryptoLab, hein, et qui est, à ma connaissance, la plus efficace pour le bootstrap. Hein. Je fais une précision de calcul de 18 bits. Hein, c'est-à-dire le delta, lui, il va avoir une quinzaine de bits de plus parce que l'erreur fait environ 15 bits. Hein. Donc j'ai 18 bits de vraie précision. Je fais 15 étages de calcul effectif. Hein, c'est-à-dire, une fois que j'ai bootstrappé, je peux multiplier 15 fois de suite en séquentiel avant d'avoir à bootstrapper de nouveau. Grand N, c'est 2 puissance 16. Hein. C'est 65 000. Hein. Donc j'ai des vecteurs de très 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 grande dimension. Je bootstrappe, hein, soit 2 puissance 16 réel, soit 2 puissance 15 complexe, hein, à la fois. Donc ça en CPU. C'est de l'ordre de 6,7 secondes en utilisant quand même des instructions de vectorialisation. Si j'utilise plusieurs fils d'exécution sur le CPU, je descends autour de la seconde. Et ce qui est vraiment intéressant, la vraie performance, c'est la performance GPU, où là on tombe à 14 millisecondes pour le bootstrap. Hein. Donc il y a plus d'un facteur 100, hein, par rapport au CPU avec un seul fil. Et là, C'est important de prendre un peu de recul et se dire, mais est-ce que c'est pertinent, cette comparaison? Quel est le bon temps de calcul? Parce que là, je donne trois temps de calcul et ils diffèrent par trois heures de grandeur. Donc, quel est le bon temps qu'il faut retenir? Et moi, mon point de vue, c'est le temps GPU. Parce que typiquement, si on fait du calcul homomorphe, le calcul il est public. On va souvent faire du calcul homomorphe pour déléguer un calcul. Et donc, c'est pas moi avec mon téléphone qui vais faire mon calcul. C'est le calcul, il va être délégué à un serveur. Il va être délégué à un fournisseur de calcul sur Internet, dans une ferme de machines quelque part. Et ils peuvent acheter des machines dédiées. Donc, ils peuvent acheter des GPU. Ou mieux. Et donc, pour moi, c'est normal, hein, quand on regarde l'efficacité du chiffre homomorphe, c'est normal de regarder quelle est l'efficacité pour la machine qui va vraiment faire le calcul ensuite, hein, quand c'est déployé. Et là, après, en termes de prix, on ne triche pas trop, parce que c'est un CPU qui est très haut de gamme, hein, celui que je présente ici, et c'est un GPU qui est un GPU de gamer. Hein. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez des ados, peut-être ils voudront acheter ça pour jouer à je ne sais pas quoi sur l'ordinateur. Ce n'est pas le GPU acheté par Amazon pour ses serveurs. Donc on est dans le même ordre de prix. Alors c'est un ado de luxe hein, quand même. Mais bon, on reste dans cette catégorie-là. Donc ce CPU, il a à peu près le même prix que le GPU. Donc après, si j'essaie de mesurer le débit, donc c'est un calcul qui est intéressant à faire pour avoir les ordres de grandeur. Donc j'ai 2 puissance 16 réelles sur lesquelles je peux faire 15 multiplications à 18 bits de précision en 14 millisecondes. Okay, donc ça me donne 70 millions de multiplications à 18 bits par seconde. Donc on entend souvent que le chiffre homomorphe, c'est pas efficace. C'est moins efficace qu'un CPU à 3 GHz. Mais ça fait 0,1 GHz. Quoi. On est dans des échelles de grandeur où on peut exprimer avec les mêmes unités. Je vais donner une application. Alors au début, j'avais prévu de faire plusieurs applications, mais alors en fait, quand on parle d'application, c'est toujours très très compliqué d'expliquer les tenants, les aboutissants, etc. Donc je vais en faire qu'une. Et je vais essayer autant que possible de la faire bien. Pour expliquer d'où ça vient et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que ça implique. Donc c'est une application biométrique. Quand on a de la biométrie, on a une extraction de caractéristiques biométriques. Donc comment ça se passe? Donc j'ai soit une empreinte, un visage ou une iris. Donc ça c'est les principaux vecteurs biologiques qu'on peut vouloir extraire. Après, on fait un truc avec. Donc, je sais pas, je prends une photo, je les scanne, je sais pas ce que je fais avec. J'ai une espèce de calcul et ça transforme ça en un vecteur biométrique. Donc, c'est la manière dont ça se passe dans les outils modernes. C'est un vecteur qui peut avoir une dimension entre, disons, 128 et entre 2 puissance 7 et 2 puissance 14, on va dire. Donc pour des empreintes digitales, ça va être des vecteurs de petite dimension plutôt, et pour des iris, là, on a et qu'on veut de la biométrie qui est vraiment fiable, on approche des très très grandes dimensions, donc peut-être 13 000 coordonnées ou plus. Voilà, donc j'ai une espèce de machine qui me transforme ça en un vecteur. Et c'est ces choses-là qui sont stockées. Alors, quand on fait de la biométrie, ce n'est pas les empreintes qui sont stockées, c'est les vecteurs biométriques qui sont stockés. Cette chose-là, ça ne m'intéresse pas pour ce que je vais faire. Ça pourrait m'intéresser dans l'absolu, je pense que c'est intéressant. C'est souvent des réseaux de neurones. Qu'est-ce qu'on demande comme propriété à cette transformation? On veut que deux prises de la même empreinte ou du même visage ou de la même iris donnent deux vecteurs qui sont proches. C'est-à-dire que cette extraction, elle a un sens pour la distance euclidienne. Okay. Et comment c'est mesuré? Souvent, on impose que les vecteurs aient une norme euclidienne donnée. Et donc, être proche, c'est être collinaire. Et donc, c'est le produit scalaire qui dépasse une certaine valeur. Donc, il y a un paramètre, T, θ-oui, qui dit si oui ou non, x et y ont été extraits du même visage. Okay. Donc si je fais deux photos du même visage, alors deux vecteurs qui ont un gros produit scalaire. Et par contre, on veut que deux empreintes visage iris de deux personnes différentes me donnent un petit produit scalaire. Okay. Donc si ça ne correspond pas, j'ai un petit produit scalaire. Si ça correspond, j'ai un gros produit scalaire. Okay. Donc ça, c'est mes hypothèses. Je suppose que j'ai ça sous la main. Maintenant, comment est-ce que c'est utilisé ? Donc, on va s'intéresser à de la reconnaissance de une personne parmi n. Alors, ce n'est pas le n de l'anneau de tout à l'heure. C'est un n qui est libre, qui peut être grand. Donc, je stocke une base de données de n vecteurs biométriques. Donc, je ne sais pas, j'ai 100 000 individus et je les stocke par leurs vecteurs dans une base de données. Et je veux déterminer si un autre individu dont je prends la photo ou dont je récupère l'empreinte, ou dont je scanne l'iris, fait partie de la base de données ou non. Donc ça peut être une question. Est-ce qu'il fait partie du groupe de quel individu s'agit-il ? Donc moi, ça ne m'intéresse pas tellement de savoir quelle est son empreinte ou quel est son vecteur. Je veux savoir s'il fait partie du groupe et on peut demander un peu plus. On peut demander c'est l'individu numéro 72 du groupe. Donc quelques exemples, donc ça commence à être utilisé vraiment partout. Donc j'étais un peu surpris cette année, j'ai demandé à ma fille qui est au collège comment elle faisait pour la cantine. Donc à mon époque on avait des cartes de cantine. Maintenant elle prend sa main, elle la pose sur une machine et ça la reconnaît apparemment. Donc c'est une espèce d'empreinte digitale pour toute la main. Ça existe pour accéder à des bâtiments. Il y a des endroits dans le monde où on peut accéder à l'aéroport. Parce qu'on a envoyé sa photo la veille, donc ils ont la liste des gens qui sont autorisés à entrer dans l'aéroport un jour donné, et quand on arrive à l'aéroport, ils prennent la photo, ils voient qu'on est autorisé à entrer dans l'aéroport, et on passe simplement par reconnaissance biométrique, hein, en un parmi n. On ne donne pas le passeport. Il n'y a pas passeport plus photo, il y a juste photo. Ou accéder à un avion. Donc c'est aussi fait pour accéder, par exemple, à un avion, pour reconnaître les passagers à l'embarquement, pour savoir si les passagers sont autorisés à embarquer. Ça existe pour du paiement, donc c'est très populaire en Asie de l'Est, donc ça existe en Corée, au Japon, peut-être en Chine, je ne sais pas. Et alors, donc ça, c'est avec du visage, hein, typiquement, et alors après, ça peut même aller plus loin. Donc il y a quelque chose qui s'appelle world.org, hein, donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder ce dont il s'agit. Donc c'est un projet type blockchain, hein, et en fait, il s'inquiète du fait. Donc la motivation, c'est qu'ils s'inquiètent du fait que les robots commencent à être omniprésents sur Internet et sur la blockchain, et ils veulent reconnaître que les gens sont des humains. Et donc pour faire ça, ils ont décidé de scanner l'ensemble des iris des êtres humains de la planète. C'est l'objectif de cette entité, de cette entreprise. Après, on peut critiquer ou pas. Ça ne marche pas très bien en Europe de l'Ouest pour le moment. Mais il y a des endroits dans le monde où ça marche très bien. Donc, et là, typiquement, c'est l'iris. Parce que si on veut distinguer parmi 5 ou 10 milliards d'habitants, les empreintes digitales, ça ne marche pas. Il faut aller sur des trucs qui sont beaucoup plus précis, et ça va être des iris avec des vecteurs qui sont de très très grandes dimensions. Dans tous ces cas-là, quel est le calcul ? En entrée, j'ai un vecteur et une matrice. La matrice, ça va être stockée quelque part. Le vecteur, il arrive, c'est quelqu'un qui veut s'identifier. Et je fais un produit matrice vecteur, ça me calcule tous les produits scalaires d'un coup, avec toute la base de données, et je veux savoir si un de ces produits scalaires, ou une des coordonnées du produit matrice vecteur, est plus grande que θoui. Et éventuellement, je veux savoir laquelle. Okay, donc c'est ça le calcul qu'on doit faire, qui est effectué. Donc une des questions qui se pose, c'est quelle est la sécurité de cette base de données ? Donc si je stocke, je sais pas moi, 10 millions d'iris quelque part, il se pose quand même une question de protection d'informations qui sont privées, et en plus qui ne peuvent pas être renouvelées facilement. Une fois que votre iris elle est partie quelque part sur Internet, ça ne va pas être facile de la remplacer. Donc comment est-ce qu'on protège cette base de données ? Donc on peut imaginer diverses solutions, donc une à base de chiffrement classique, donc je mets toute la base de données sous AES. Et là, le problème, c'est à chaque fois que j'ai besoin d'accéder à la base de données, j'ai besoin de la déchiffrer intégralement. Donc je déchiffre intégralement ma base de données, et en particulier s'il y a un hacker, un attaquant qui est sur le serveur qui contient cette base de données, il peut l'extraire, puisque quand on calcule dessus, elle est en clair. Donc il peut extraire la base de données au moment où on calcule dessus. Donc ça, c'est des attaques en fait, qui sont assez fréquentes. Il y a énormément de bases de données partout qui sont stockées en AES, mais quand on doit les manipuler, à un moment, il faut bien les déchiffrer, et c'est à ce moment-là qu'elles sont captées par des attaquants. Alors on peut imaginer de mettre ça dans des enclaves sécurisées et faire le calcul dans une enclave matérielle. Donc là, je ne vais pas m'approfondir là-dessus. Je dirais juste que la sécurité est douteuse. Hein, et je renverrai un très bon rapport récent de l'ANSI sur cette solution-là, qui est marketée comme confidential computing. Une troisième approche semi-classique, mais qui n'est pas facile à mettre en œuvre, hein, c'est le calcul multipartite sécurisé. Donc ça existe aussi pour ce type de problématique. Hein. Et l'hypothèse, ça repose sur une hypothèse, donc la base de données va être distribuée sur plein de serveurs qui vont faire des calculs indépendamment distribués. Et ça repose sur l'hypothèse que les serveurs ne sont pas tous corrompus ou qu'une proportion significative des serveurs, ou suffisante des serveurs, n'est pas corrompue. Parce qu'à partir du moment où plusieurs serveurs se mettent d'accord, la base de données elle peut être reconstituée, et donc là c'est foutu. Et ce n'est pas évident à mettre cette hypothèse en œuvre, hein, tout en gardant l'efficacité. Parce que typiquement, en calcul multipartite sécurisé, il va falloir pas mal de communication entre les différentes parties. Donc on a très envie qu'elles soient côte à côte. Mais bon, si elles sont côte à côte, le hacker, s'il arrive à récupérer un bout, il récupère l'autre bout, quoi, si c'est tout sur la même machine, hein, ou sur des machines qui sont proches. Alors voilà une solution avec CKKS. Je chiffre ma base de données, je chiffre la requête, je fais mon algèbre linéaire homomorphe, donc on a vu une solution pour faire ça, on l'a vu avec une matrice qui était en clair, mais bon, on sait aussi faire avec des matrices chiffrées, et ensuite on compare au seuil. Alors ça c'est le schéma général. Donc la comparaison, c'est on peut l'approcher par un polynôme en particulier. Donc on obtient un chiffré, à la fin de ça, on obtient un chiffré qui contient 1 dans la possible entrée qui correspond, et 0 dans toutes les autres. Donc si l'individu fait partie du groupe, j'ai un vecteur qui n'a que des 0 et un 1, et le 1 il est dans la position de l'individu, et si j'ai un individu qui ne fait pas partie du groupe, j'ai que des 0. Alors là, je voudrais faire une remarque, c'est important de ne pas déchiffrer la base de données fois x, hein, et de ne déchiffrer que le résultat de la comparaison au seuil. Hein. Alors, on a vraiment envie de faire ça, parce que c'est beaucoup plus facile de calculer le produit scalaire homomorphiquement, que de faire la comparaison homomorphiquement. Ça, c'est pas cher comparé à ça. Le problème, c'est que si un attaquant apprend des x et des bd fois x, au bout d'un moment, il va retrouver bd, juste par algèbre linéaire. Donc c'est vraiment important de ne divulguer que ce bout-là. Pour minimiser le coût de la communication, mais aussi le coût de cet algèbre linéaire, c'est intéressant de calculer ce produit matrice vecteur avec un petit module. Ça fait moins de données à transmettre, et le coût du calcul il est proportionnel au module. Et donc plus le module est petit, plus on est content en termes d'efficacité. Donc on va faire tout ça un module qui est super bas, le plus bas possible. Et donc ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai fait mon produit matrice vecteur le plus bas possible, j'ai plus de module disponible pour le calcul, et donc il faut bootstrapper. Donc c'est pas une application triviale, c'est une application, si on la fait bien, c'est une application qui bootstrap. Hein. Et donc, ensuite, je bootstrap et je fais mon approximation polynomiale de la comparaison pour obtenir mon vecteur soit que de 0, soit que de 0 avec un A. Voilà, donc c'est ça le calcul qui est effectué. Donc un peu en termes de performance, donc en gros ça va être le nombre de bootstraps que je vais faire, c'est la dimension de la base de données, le nombre d'entrées de la base de données divisé par la dimension des vecteurs que j'arrive à manipuler en parallèle, de la dimension de mes clairs. Dimension de la base de données divisée par la dimension des clairs me donne le nombre de bootstrap. Donc par exemple, si je prends 65 000 vecteurs, donc 65 000 c'est la dimension que j'avais tout à l'heure pour mon anneau, j'avais un bootstrap en 14 millisecondes. Bon, là, il y a un peu plus de calcul que le bootstrap parce qu'il faut aussi faire l'évaluation polynomiale. Il y a aussi l'algèbre linéaire, mais il se trouve qu'elle est négligeable par rapport au reste. Et donc, en gros, à la louche, je vais être 25 millisecondes pour 65 000 vecteurs dans la base de données avec un GPU. Okay. Alors après, si j'ai des bases de données plus grosses, soit j'attends plus, soit j'achète plus de GPU. Et donc, pour passer un peu à l'échelle, j'ai comparé à ce qu'on pouvait faire en une seconde. Je peux faire une reconnaissance avec cette performance-là, faire une reconnaissance de une personne parmi 2,6 millions en une seconde avec un seul GPU. Par exemple, tester l'entrée dans un aéroport, on est largement au-delà de ces nombres-là pour le volume de visiteurs d'un aéroport en un jour. On est très au-delà. Et après, bon, si on a envie de faire 50 millions de personnes, j'achète 20 GPU. Hein. Une seconde, c'est important parce que c'est un temps de latence qui correspond à ce qui est acceptable sur Internet, par exemple. Donc, avoir des calculs... Donc là, par exemple, 25 millisecondes, ce n'est pas un temps pertinent. Parce que ce calcul-là, il va être mélangé à... Le temps, il va falloir aussi chiffrer le vecteur au début, l'envoyer, qu'il transite, que le vecteur à la fin du résultat revienne, etc. Et les temps de communication se chiffrent en général bien au-delà de ça, peut-être jusqu'à 10 fois plus. Et donc avoir des temps qui sont très en dessous du temps réseau, c'est pas pertinent. Donc on peut faire plus de calculs que ça, tout en étant caché par le coût de la communication. Donc ça c'est la solution, disons, alors c'est pas complètement élémentaire ce calcul, hein, mais c'est quand même assez basique, hein, et en fait il y a moyen de faire mieux. Il y a moyen de faire mieux sur l'algèbre linéaire, il y a moyen de faire mieux sur le nombre de bootstrap, hein, et on peut augmenter significativement ces tailles de base de données pour les mêmes temps de traitement. Alors une question importante là-dedans, c'est qui déchiffre, hein. Et alors ça, c'est une question cruciale pour le chiffrement homomorphe et pour ces applications en général. À un moment, il y a quand même bien... Enfin, je veux dire, les données chiffrées, c'est sympa, mais c'est pas... On peut faire des calculs sur les données chiffrées, mais ce qui nous intéresse, c'est pas le chiffré du résultat. C'est vraiment le résultat, à la fin, qui nous intéresse. Et donc, quand on réfléchit à des déploiements et des applications, il y a toujours cette question, mais où est-ce qu'on met la clé de déchiffrement? Parce qu'à un moment, quelqu'un doit déchiffrer. Donc il y a une première solution qui consiste à mettre la clé de déchiffrement sur un autre serveur. Donc pourquoi pas, en fait, hein. C'est pas absurde, hein, parce que du coup, bon, j'ai ma base de données qui est chiffrée, elle peut être stockée publiquement, elle peut être mise à droite, à gauche, de manière redondante sur plein de serveurs. C'est une donnée, comme tout est chiffré, je peux la donner, hein, en chiffré, ma base de données. Le serveur qui fait le calcul, hein, ce qu'il fait est complètement public. Donc, n'importe qui peut faire ce calcul. Faut quand même s'assurer que le calcul est fait correctement, mais bon, si je veux m'assurer qu'il est fait correctement, je le fais faire par Amazon, Google et Oracle, et puis je regarde si j'ai la même chose. Ça, c'est aussi public. Si ce serveur-là se fait hacker, c'est pas mon problème. La base de données chiffrée publique, elle est déjà disponible à tout le monde. Donc l'attaquant qui s'introduit dans ce serveur-là, il n'apprend rien de plus que ce qui est déjà disponible pour tout le monde. Le résultat du calcul, lui, peut être envoyé à un serveur de déchiffrement, et celui-là, il faut le sécuriser. Parce que lui, il contient la clé secrète. Si la clé secrète est divulguée, elle peut être récupérée pour déchiffrer la base de données entière. Mais ce qui est important, c'est que ce serveur-là, il a juste la clé secrète à protéger. Il n'a pas une base de données de je ne sais pas combien de gigaoctets. Il a juste une clé secrète à protéger. Et le déchiffrement. Le déchiffrement qui est une opération, c'est une multiplication de polynômes. Ce n'est pas une opération qui est particulièrement complexe. Donc ça, c'est une solution. Si on n'est pas content avec un seul serveur qui déchiffre, on peut utiliser des techniques de cryptographie à seuil, donc partager la clé secrète en plein de serveurs différents. Donc je partage ma clé secrète en, ici, 5 serveurs, peut-être 3 serveurs suffisent pour reconstruire la clé secrète, n'importe quel sous-ensemble de 3 parmi les 5. Et alors ça, c'est intéressant parce que déjà, ça donne une robustesse aux pannes, parce que si celui-là, il est en panne, ben, il n'y a plus de service. Ici, si 3 suffisent pour déchiffrer, si celui-là, il est en panne, le service continue. Et il y a une sécurité renforcée, dans le sens où maintenant, pour retrouver la clé secrète, il va falloir corrompre au moins 3 de ces serveurs. Et après, rien n'empêche, en plus, de sécuriser chacun de ces 5 serveurs. Voilà, donc là, en fait, ça, c'est des techniques qu'on appelle de chiffrement homomorphe à seuil, hein, mais qui revient simplement à passer dans un format à seuil hein, l'étape de déchiffrement. Voilà, donc c'est la fin de mon exposé. Je donne quelques liens. Pour CKKS, moi, je trouve les deux articles originaux sont pas mal fait pour comprendre comment CKKS fonctionne. Donc c'est ces deux-là. Le premier, c'est sur l'arithmétique CKKS, le deuxième, le bootstrap. Alors, c'est pas le bootstrap le plus efficace, hein, il y a eu plein de travaux ensuite, hein, mais c'est un bootstrap qui fonctionne, qui permet de comprendre ce qu'il faut faire. Après, si on est intéressé par des améliorations algorithmiques, bon, il y a plein de papiers à regarder, mais ça permet de savoir comment ça fonctionne. Ce lien-là, c'est une plateforme en ligne fournie par CryptoLab pour faire du calcul homomorphe. Donc les temps de calcul que j'ai donnés peuvent être testés en partie sur cette plateforme en ligne. En partie parce que les fournisseurs de calcul cloud ne donnent pas accès aux GPU que j'ai mentionnés. Ils donnent accès à des GPU qui sont plus chers et qui tourne moins vite. Donc il y a un facteur 2 qui se perd. Et enfin, ici, c'est une page qui contient des articles de blog sur CKKS, à la fois orientés recherche, donc des blogs qui essaient, des entrées de blog qui essaient d'écrire de manière plus haut niveau des résultats récents sur CKKS et aussi quelques entrées de blog sur des logiciels ou des aspects implémentation homomorphe. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.